comme un pansement apaisant, les petites choses du quotidien prennent des allures d'opéra. Un cerisier qui fleurit, une cueillette d'ortie pour les lapins, un oiseau qui prend son bain dans une flaque d'eau, le bus qui dépose les ouvriers après le travail devant la maison, meublent des conversations sans lendemain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est dans ce jour qui se lève, dans cet orage qui roule son tambour aux portes de la forêt. Ce bonheur est simple, désuet. Il n'est pas passé par les bancs de l'université. Le bonheur est un silence sans phare, sans maquillage. Il suffit de lui donner la main comme à un petit qui sort de l'école, les doigts barbouillés par l'encre de sa première dictée. Des trois enfants de Louise, Émile est le plus doué à l'école. Il obtient son certificat d'études, l'agrégation du petit gars de la campagne qui va à l'école. Mais que faire lorsque l'économie locale se résume à trois fois rien? Ses deux frères ne se sont pas posé la question. « Je vais là où l'on me donne 3 sous pour acheter mon savon et une tenue propre. Là où l'on me donne un brin de boulot pour espérer que demain sera un autre jour. » Le jeune Émile réfléchit aux jours à venir. En attendant, il travaille comme ouvrier forestier dans la célèbre futaie. Il apprête les arbres abattus, il élague les branches de l'arbre tombé au combat. Il accompagne l'arbre dans sa chute avec son index poissé dans le « i » de l'alphabet. Sa hache glisse contre le tronc comme la main du masseur sur le corps. C'est au cours de ces journées qu'Émile flirte avec la sagesse, avec la contemplation. Chartres a sa cathédrale, Vézelay est fier de sa basilique et le Bourbonnais vante sa sublime forêt. Les plus grands vins du monde dorment dans leur lit de chêne pour arrondir ce que les saisons n'ont pas eu le temps de faire à la vigne. Cette lenteur du temps, ce souffle apaisé façonne ces tonneaux qui se glissent entre les fougères et les arbres. Il lui fabrique son armure. Le silence élégant, grandiose, caresse la belle âme de jeune homme d'Émile qui se nourrit de cette contemplation unique. Dans son théâtre quotidien, dans la forêt, il installe son espace de travail. Au pied d'un arbre allongé, il a rangé son paquet de cigarettes, son briquet, sa gamelle remplie d'un fromage frais battu aux herbes, son pot de fraises au sucre et au vin rouge préparé par Louise avant qu'il ne parte à bicyclette. Aux heures chaudes de la journée, au cœur de l'été, il ôte son pull au vert et le dépose non loin de lui. Le vêtement attire chaque jour un rouge-gorge fidèle à cette scène de la petite vie. Émile l'attend. Le passereau attend Émile. Le charme opère entre ces deux-là. L'approche est hésitante. Le tâtonnement amoureux n'appartient qu'à eux. La patience porte ses fruits. Perché sur le pull, l'oiseau commence son jeu, le détricotage du vêtement. Du bout du bec, il part à la recherche du brin de laine qui dépasse. Il picote la manche au rythme de l'aiguille de la machine à coudre. D'un coup de tête, d'une torsion du bec, il tire sur son trésor. L'oiseau détricote avec méthode. Émile l'observe, la tête calée sur ses genoux. Il laisse faire cette opération de démolition avec amusement. Le vêtement pour adultes entre au rayon prêt à porter des enfants. Le travail hivernal de Louise est réduit à néant. Le pull traumatisé rejoint l'élastique du porte-bagage au soleil couchant. À l'heure de la soupe aux tomates du jardin, Émile racontera la vie de ce petit voyou à plumes. Louise sortira sa boîte à couture pour stopper l'hémorragie jusqu'au lendemain. Ces histoires-là nourrissent la vie de famille. Ces histoires-là sont des bouts de rêve qui font les belles personnes. Elles n'empruntent et ne doivent rien à quiconque. Elle se fabrique à l'abri des murs de la maison de Rosière. Entre le passe-partout et la hache, outil de la forêt, l'avenir a peu de place. Émile veut partir à la ville. Un coiffeur de Clermont-Ferrand cherche un apprenti pour tenir propre son salon. Émile décide de faire sa valise et de se jeter dans le vide. L'aventure est une bouche béante qui peut croquer voracement ou qui peut déguster avec douceur. C'est un peu le 421. Auquel l'on joue sur le coin du comptoir, mais qui ne joue pas, ne risque pas de gagner. Sans le savoir, Émile prend un virage. Un virage qui le ramènera jusqu'à sa plus belle phrase adressée à Marcel au cimetière. « À tout à l'heure, j'arrive, je n'en ai pas pour longtemps. » Il prend l'autobus qui tissera le fil de sa vie jusqu'à ce dernier message d'amour prononcé en public. Marcel dit qu'à leur première rencontre, elle l'a trouvé beau et qu'il avait de jolis cheveux ondulés. C'est tout ce qu'elle a livré aux enquêteurs. « Boum !»« Quand notre cœur fait boum !» chantait Charles Trenet. Chacun voit « boum » comme il l'entend. Le guide des 10 premières leçons de la pratique amoureuse n'existe pas et Dieu merci n'existera jamais. « À tout à l'heure, j'arrive, je n'en ai pas pour longtemps. » Il avait de jolis cheveux ondulés, remplace les « je t'aime » que l'on chuchote dans les livres à l'eau de rose. C'est donc sur un banc public que la parade s'organise. On chahute, on rigole, on esquisse un pas de danse qu'on interrompt très vite pour éviter une promiscuité troublante lors de cette approche. Pour plus de tranquillité, il faut toujours la présence de témoins amicaux. Ce sera Georges, le jardinier de Montferrand, qui vient d'épouser Jeannette. Ce sera Simone, Paulette et Jeannot, les frères et sœurs qui voient sans voir. Les lanternes de la place semblent être orientées par le directeur photo d'un film de Renoir. La place a fermé ses volets. L'édredon retient le souffle du jour. Demain, il y aura tant à faire. On fait provision de paroles, de gestes, de pensées. Seul, ce petit groupe de noctambules entretient le terreau d'une vie à venir. La place de la Rodade s'endort, mais garde ses paupières entrouvertes jusqu'à la fin de la représentation. Justement, demain, ce sera cinéma. À la tombée de la nuit, on ira à bicyclette au paradis du chocolat glacé, au cinéma L'ABC, sur la grande place de Clermont. Jean Gabin débute, Aznavour s'essaye à la chanson, Tino Rossi emprunte la route du succès. Émile et Marcel dessinent leur prochain été. Ils affûtent leurs crayons de couleur et les rangent dans le plumier qu'ils sont en train de choisir à deux. Mais chut, pas trop vite. On étudie la stabilité des fondations avant de penser aux murs et aux toits. Cette attente donne une belle couleur pourpre aux joues. Chacun dans son coin lisse ses plumes. Émile chante des laubes aux portes de Pâques. Marcel brode son trousseau et comme témoignage d'un amour solide, elle tricote son premier pull-over pour l'homme de sa vie. Accompagné par sa mère, Marcel passe d'une manufacture à une entreprise, d'un magasin à l'autre pour trouver du travail. Elles entrent chez une modiste. « On recherche une tête à chapeau », expliquera la patronne. « Une tête qui porte bien le couvre-chef est rare. » Pour une future cliente, un chapeau, un béret, une voilette bien portée et l'affaire est conclue. Marcel est engagée. Au milieu de la boutique, elle dodeline du chef. Elle va et vient sous un œil attentif. Marcel est quelqu'un. Marcel a un travail. Elle s'intéresse à la fabrication et prête la main. Attentive, elle progresse pour entrer dans l'atelier. Elle dessine, conçoit, coud, ajuste. Émile, lui, joue de la tondeuse sur la tête du client qui souhaite un peu plus court pour que ça laisse passer l'été. La coupe de la patte est un peu maladroite, la nuque incertaine, les cobayes du coiffeur débutant s'en vont en boitillant du cuir chevelu. En marchant vite, oh, on y voit que du feu. Émile et Marcel se vouent à leur job avec passion. Le jour est consacré au boulot et le soir laisse entrer la rigolade. Ils rejoignent le café de la mère Chavarot. Berthe Chavarot a donné la main de son fils Jean à Paulette, la sœur aînée de Marcel. Pas de mojito, pas de cocktail, mais des canons qui donnent de belles couleurs au bonhomme qui entre chez Berthe pour tordre le cou au temps qui s'effiloche très vite, trop vite, dès qu'on a le dos tourné. Chez Berthe, ça sent la lavette, qui balaye sans réfléchir le dessus de la table au rythme de l'essuie-glace. Chez Berthe, on écrit le journal local, avant même que le fait divers se soit produit. À la place du stylo, on réclame le saucisson qui fait couler l'encre de la vie. Les miettes de pain sont rassemblées à la fin du casse-croûte et offertes à Hercule, le poisson rouge qui tourne, solitaire dans son aquarium. Chaque vendredi, jour du poisson, on offre un grand bain à Hercule. En guise de karcher, la puissance de l'eau du robinet stimule la bestiole jusqu'à la semaine suivante.